وحسين. مايا وحسين une émission présentée par عبد القادر بن دعماش et يوسف طويبية. مايا وحسين tous les mercredis de 22h à minuit. مايا وحسين réalisé par أمين لولي.
Chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir avec mes collègues Youssouf Touibia et Amin Louli à la réalisation. Et ensemble, nous avons lancé une invitation à notre ami Faisal Ben Khalfat, qui est le créateur du portail du patrimoine musical algérien. Rien que ça, il est ouvert, vous pouvez le consulter. Il est en chair et en os avec nous parce que nous l'avons fait déjà et qui a bien voulu donc répondre à notre invitation avec beaucoup de plaisir. Il est venu accompagné d'une autre amie aussi que nous connaissons bien et que nous respectons beaucoup. Il s'agit de Diff Fazilet, qui a un long parcours, brillant parcours dans la musique classique, a été élève de Abdelrazak Kharji, de Sid Ahmed Serri, et elle est passée par Mousselia, elle est passée par Thaalibia également, et elle est passée aussi en qualité d'interprète. Elle est toujours interprète, mais elle s'est installée aujourd'hui dans l'écriture et dans la publication. Elle vient de nous écrire un livre magnifique. On en parlera tout à l'heure. Cette idée nous est venue à notre retour de Tlemcen la dernière fois lorsque nous avons réalisé une émission à l'occasion du 10e anniversaire de la création de l'association Mohamed Bouali de Tlemcen, et nous saisissons cette opportunité pour remercier tout l'encadrement de l'association qui nous ont tous les collaborateurs, le président, etc., qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre notre séjour agréable. La musique classique algérienne, dite andalouse, repose sur un système modal très riche. Il est comparable au maqam du monde arabe, mais avec des spécificités propres à notre histoire, propres aussi à nous. Chez nous, les modes de structure, les noubats, et déterminent à la fois l'ambiance, les intervalles et aussi les enchaînements mélodiques. Dans l'histoire de la musique classique algérienne, on a dénombré 24 modes. On peut parler aujourd'hui de 7 d'entre eux qui sont les modes de base. Il s'agit du Mouel, du Zidane, du Mzmoum, du Sika, du Araq, du Djarka et du Rmlemeya. Voilà, planter notre décor de ce soir. Et le thème aussi, il s'agit des modes musicaux de la musique classique algérienne dite andalouse. Bonsoir et bienvenue à nos invités Faisal Ben Khalfat et Diff Fazilet. Youssef, bonsoir.
Bonsoir amis auditeurs, bonsoir Tonton Kader, bonsoir nos invités Faisal Ben Khalfat et Madame Fazilet.
Eh bien, bonsoir, merci de l'invitation. Je viens, je précise, c'est moi qui accompagne Fazil Asdef.
J'ai dit pour accompagner ses émissions. De...
Oui, mais c'est plutôt moi qui l'accompagne. Donc, voilà.
On en parlera, on aura le temps de le faire.
Surtout, voilà, l'idée, quand Amin Louli m'a et l'équipe, vous m'avez proposé de continuer ce dont on avait discuté à Tlemcen.
C'est ça.
Je vous avais dit que actuellement, Fazilet, avec laquelle je collabore depuis quelques années, je sais pas 5 ans au moins, nous avons beaucoup avancé sur l'écriture de l'histoire de cette musique, basée sur une documentation. Et cette documentation est extrêmement riche grâce à des gens comme Roti Bouali, et surtout,
qui nous a laissé un bel ouvrage.
Qui nous a laissé, pas que Keshf el-Ghina, il a laissé beaucoup, dont certains sont encore inédits. Mais pour la musique, c'est Keshf el-Ghina. Mais surtout, Mustafa Aboura et son fils qui a continué le travail du père.
Ça, c'est Mustafa Aboura.
Mustafa et Khairdin Aboura ensuite, parce que Khairdin, Mustafa Aboura, nous a donné toute l'histoire pratiquement du 19e siècle, depuis le début. Alors, c'est l'époque, la période de... Là, je laisserai d'ailleurs Fazilet donner beaucoup plus d'informations sur cet aspect. C'était la période de Hajj Brahma à Alger et Hajj Hammadi Bordadli à Tlemcen, qui étaient amis, qui communiquaient avec les moyens de communication de l'époque, c'est-à-dire c'était des déplacements de longue durée, aussi bien à Alger qu'à Tlemcen, et leur continuateur, Mnemush, Ben Faracho, Sfinja, et tout ce qui vient après, toutes les grandes figures, et certaines qui sont restées anonymes et pratiquement oubliées.
Ouais, il y en a beaucoup
qui ont joué un rôle considérable.
Et là, nous sommes à la fin du 19e siècle.
Là, nous sommes à la fin. Mais ensuite, au 20e siècle, les choses ont été reprises en main par quelqu'un, des personnages dont on a complètement oublié l'importance, Hamid al-Khatib, les Lekhal.
On lui a consacré toute une séance.
Oui,
les Lekhal,
aussi bien Mahiddin que Mohamed Lekhal, qui ont joué un rôle aussi. Parce que là, on parle de documents. Hein. On parle de documents que j'ai mis en ligne sur le portail, mais que les gens n'ont pas travaillé. Des gens, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas, parce qu'il y a des tonnes d'informations. Ils nous donnent des noms des auteurs, la structure de la Nouba. Bon. Pour résumer, il y a eu ce travail méthodique aussi bien à Alger qu'à Tlemcen pour l'écriture de l'histoire, et nous avons toutes les structures, nous avons par exemple la façon dont était pratiquée la Nouba, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Mm-hmm. C'était une autre époque.
Il y a aussi un autre, Ahmed Saftak, qu'il ne faut pas
oublier. Oui,
Kamel
Hadou, bzaf.
Qui lui-même présentait une
émission. Il y avait Ben Khaptan, il y a beaucoup, à Blida et à Alger. Mais Hadou, ceux qui ont laissé des traces, ceux qui ont laissé des écrits, c'est surtout ceux-là. Parce qu'on retrouve chez Sid Ahmed Sarri certaines pièces qui lui ont été remises par Mohamed Lekhal. Je parle d'un petit corpus quand même, avec des pièces complètement inédites que Sid Ahmed nous a gratifiées dans son coffret. Donc, l'Awinas al-Wiqah, Yaqalbikum Tsebrafid al-Hal, Kamel Hadou, c'était dans le répertoire religieux. Mais pour revenir à la structure de la Nouba, aussi bien sur le plan modal que rythmique, c'était une autre approche différente. Et surtout, et là je vous donne la parole, surtout la structure, la façon de pratiquer la Nouba, elle était exhaustive. La grande Nouba, on jouait Msoddar, c'est la manière exhaustive, comme ils le font encore un petit peu à Constantine.
Ils le font jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. Et à Tlemcen aussi, à Alger, à Tlemcen. Et donc, voilà comment les choses sont déroulées. Les classements, par exemple, la Nouba Arak existait encore. Nous avons les documents qui le démontrent. Aujourd'hui, on voit que c'est un méli-mélo, la Nouba Hsin et Arak. Et tout ça est vérifiable. Alors, quand on a fait le Bouchahat al-Ashal, auquel a collaboré, un de nos grands collaborateurs, ça a été quand même Youssef Touaibia qui a fait un travail gigantesque, et ça tout le monde semble l'oublier. On a travaillé sur le Mouchahas al-Ashjal pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. D'ailleurs, on travaille sur une nouvelle mouture actuellement, on va mettre que les morceaux connus et chantés. Parce qu'il y avait beaucoup de morceaux théoriques sur le yafil. Le yafil est un peu trompeur.
Trompeur, et puis c'est pas exhaustif, c'est pas ce que nous savons dans ce domaine-là.
Non, mais le travail, il est magnifique. Voilà. Il est là, c'était une référence en 1900, les débuts du 20e siècle, il nous sort. Bon, là aussi, pour le yafil, il faut remettre un petit peu d'ordre. Il n'a rien à voir avec le contenu de livre. Yafil a fait, il a eu la présence d'esprit de réunir les Knanesh et les Sfinets de l'époque. Voilà. Il a fait du porte-à-porte. Il a ramené des arabisants parce qu'on dit, il y a le mythe, lui, que Yafil maîtrisait l'arabe et qu'il avait un doctorat. Non, tout ça, il ne connaissait ni le solfège, ni l'arabe.
Il était bien introduit.
Là, moi, j'ai écouté dernièrement un truc où il disait que Yafil maîtrisait pratiquement, c'était lui le responsable des partitions. Sur ce plan-là, on peut dire...
Il était bien introduit à l'époque.
Et on ne lui enlève pas le mérite. Il a fait... beaucoup de mérite, mais celui, la grande œuvre de la Sana'a d'Alger, ni avant, ni après, personne n'a atteint le niveau, il a fait le travail de Sid Ahmed Serri. Il devrait être au panthéon des conservateurs de notre propre culture.
Merci donc, beaucoup.
Voilà.
Et si on reviendra sur les détails. Si je t'arrête pas, tu ne vas pas t'arrêter. Ça, c'est certain. ça fait rien. Alors, on revient un peu au mode, parce qu'il faut cadrer, recadrer notre discussion de ce soir. Ce sont les modes musicaux. Est-ce que les 24 modes, ce sont ceux-là que nous pratiquons aujourd'hui dans la Sana? Et puis, on sait aussi que sur un mode que nous étudions, il y a que le mode de façon générale n'est pas figé. Et à travers le temps, il vit à travers l'interprète également, avec la transmission orale, avec les maîtres aussi qui l'ont interprété. Chaque grand maître a sa couleur personnelle aussi. Et puis, il y a un rapport avec l'émotion, avec l'environnement également.
Et on parle de plusieurs choses en même temps.
Oui. Je suis dans le mode et puis on reste dans
le mode. Alors, pour le mode, d'abord, il n'y a jamais eu 24 modes. Voilà. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est une histoire. Là aussi, elle est identifiée. Mmh. C'est Ifrani qui a essayé de donner le nombre magico-mystique de 24. Il n'y a jamais eu 24 modes. Alors, Tifeshi, au XIIIe siècle, nous parle de 500, des grandes chanteuses qui connaissaient 500 modes. Donc, les mots ont un sens, et le mot mode, on lui donne des sens différents, Tifeshi, et des interprétations différentes.
Tifeshi, il y a des Tchino.
Ah, il est, bon, ils disent Tunisien, Nairolo, Tifeshi, bon, tout ça, moi, je vais pas rentrer dans ces, il n'y avait ni Algérie, ni Tunisie, ni c'était le Maghreb, enfin, c'était une autre façon de voir les choses, on va pas rentrer dans ça. Mais ce qu'il a écrit, ce qu'il a donné, c'est surtout en Tunisie. Son œuvre, elle est mieux connue en Tunisie qu'en Algérie. Mais le problème n'est pas là. Pour l'histoire des modes, c'est très simple. Nous avons 11 noubas. Alors, est-ce que le mode représente une nouba? Ça aussi, il faut mettre de l'ordre dans les appellations, dans la taxinomie. Nous avons 11 noubas et vraiment tirées par les cheveux parce qu'elles sont pas toutes complètes. Et quand on voit, par exemple, la nouba de Rib qu'on prend comme modèle, Atlemsan, avec les trois Tuachi, ça c'est unique à la nouba Rib. Et là, on part comme des systématistes dont fait partie, bon, il est le seul actuellement qui reste, qui est encore vivant, Youssouf Touaibia. Il essaie de créer un modèle idyllique et idéal d'une nouba, la plus complète possible, bien corrigée, bien. Donc le mode ne va absolument rien dire. Nous avons la réalité, nous avons nos 11 noubats, plus des séries, des silisdats, mqlabats, etc. Et là, je rends la parole.
Non, moi, je la donne à Fazilat. Quel est ton point de vue sur tout ça, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, sur les modes, sur...
Ben, le mode, c'est un peu... C'est quelque chose avec... pas mal de contours assez flous, parce que bon, on est dans l'oralité, on fonctionne, la musique que nous pratiquons est une musique uniquement modale, notre jeunesse aurait tendance à vouloir que la musique modale devienne aussi prête à correspondre aux règles de la tonalité. C'est deux choses complètement différentes, même si certains veulent absolument la rentrer dans des cases qui ne sont pas à elles, mais c'est ainsi fait. Alors la musique modale, ce sont des formules musicales qui sont sur une échelle sonore pas du tout tempérée, elle ne l'est pas. La musique modale est bien antérieure à tout ce qui est tonalité, parce que c'est une musique médiévale, tout ce qui est tonalité,
avant les barres de mesure, même sur le plan rythmique.
Merci, qui est arrivé bien avant tout ce qui est tonalité, barre de mesure et tout. Donc cette musique modale, elle a, je persiste à dire, quelques contours un peu flous. Tout à l'heure, Abdelkader, tu disais la dextérité d'un maître, la transmission, ces choses-là font que ça peut un peu changer, ça peut évoluer. Moi, j'irais dans un autre sens. Dans la musique modale et dans la façon de chanter, il y a aussi tout ce qu'on appelle les intramodalités, les intermodalités, les modalités qui annoncent pour aller vers autre chose. Dans un même mode, tu prends le mode Ziden, par exemple, dans un même mode, tu bouges. De ton Ziden, tu vas vers Sika, ensuite tu peux revenir, tu vas vers le RR, tu reviens vers le Ziden. Donc, cette modalité, elle est complexe, intrinsèquement dans la musique, dans la nouba. Et nous, praticiens, nous le faisons d'instinct.
Si, s'il te plaît, Fazil, tout ça, ça vient d'où? Ça vient du bonhomme, ça vient de l'homme, de l'être humain,
du musicien. Oui, ça vient de l'être humain, mais faut croire que ce sont des choses qui sont restées dans un certain sens fixe, puisqu'on a réussi à le transmettre depuis l'époque médiévale, et qu'on continue comme ça. Donc, elle est probablement plus proche de l'humain que ne pourrait l'être, peut-être, je vais faire encore des copains, ça c'est sûr, que ne pourrait l'être la tonalité. Parce que là, c'est beaucoup plus proche des sons naturels. C'est quand même différent.
Oui. Sur les règles, alors, de notre musique sur le plan modal, elles ont été fixées il y a 24 siècles déjà. Tu trouves les traités d'Aristoxène qui était l'élève d'Aristote, tu trouves ensuite chez les néoplatoniciens d'Alexandrie, parce que ces règles-là ont été fixées. Qu'est-ce que c'est qu'un mode? Les écarts des notes. Tu vois, un mode, c'est comment, où placer les demi-tons sur le mode. Donc, chez les Grecs, déjà, tu avais les sept modes fondamentaux, plus les modes synthétiques, et en plus, même l'espace entre les notes, l'histoire du quart de temps ou de la non. Chez Aristote, il définit qu'il y a les deux notes, par exemple, traoui la haute. Tu vas du sol au do, mais entre le sol et le do, les notes sont amovibles, elles bougent. Je te donne un exemple de Hal Talaqi ibn Sabil Tardouan que j'ai analysé au spectrographe. Il joue trois couleurs de mi différentes pendant la mélodie. Et c'est d'une précision diabolique. Trois couleurs, le mi a trois couleurs différentes. On peut pas faire ça au piano ou là au mandol. Oui. Tu vois, et il le fait, il répète huit fois la mélodie et c'est huit fois le même résultat au centième de ton. Tu vois, c'est d'une précision. Il le fait d'instinct. Ouais, il va pas calculer, dire j'ai joué cette note précisément. C'est d'instinct. Tout ça est instinctif. Bon, et sur les modes, il y a le côté ésotérique, des humeurs, des avec tout ce qu'on a comme l'histoire sur le côté l'aspect cosmogonique, cosmologique. Et il y a un petit côté quand même qui reste mesurable, qui reste mathématique. Mais ne pas insister ni sur l'un ni sur l'autre côté. Ça se joue naturellement. Et la musique, je vais vous donner un exemple pour résumer le truc. Cheikh Larbi est le père d'Ardouane, de Sari. Cheikh Larbi a enseigné cette musique à Ardouane. On écoute les deux musiciens, ces deux musiques totalement différentes. C'est les mêmes morceaux, les mêmes pièces. Il y en a à Jarrett, Cheikh Larbi et Ardouane, c'est deux musiques entièrement différentes.
Qu'est-ce qui a fait ça?
Ça, c'est c'est l'instinct, c'est l'humain, c'est la sensibilité humaine, chacun a, et la compétence instrumentale et vocale
Là, qui est unique, qui est intrinsèque.
Les grands maîtres, les grands interprètes, c'est qu'est-ce qui a fait Oum Kulthoum? Il y avait des centaines de chanteuses, il y a une seule Oum Kulthoum, il y a un seul Mohamed Abdel Wahab.
C'est vrai. On va écouter notre ami Youssef. Ce soir, il est
tranquille. Il est calme, on l'entend pas, il écoute.
Parce qu'il a de la richesse en face de lui.
Avec deux invités de marque, on apprend. Juste pour ajouter dans le sens, pour abonder dans le sens de ce que venait de dire à Madame Fazilet lors d'un colloque à Skikda, justement où il était question de nouba contemporaine et de composition. Quand on parle d'un morceau où il y a une transition modale à l'intérieur du même morceau, ces transitions semblent suivre un cheminement logique.
Un schéma
logique. C'est-à-dire il y a une sorte de cercle modal au sein d'un même morceau. Je parle des morceaux qui sont des morceaux étoffés. On avait examiné le cas de Mashouq Min Raid al-Hissan de la Nouba Mjenba. Et il y a des axes de mode Hagda où on transite, par exemple, d'un mode 1 à un mode 2, un 3, et on revient au 1, et ainsi de suite.
Des modulations intermodales.
Des modulations intermodales dans le, au sein du même morceau. Et pour souligner la complexité de cette analyse modale, et notre ami Faisal a beaucoup travaillé.
Le meilleur exemple, c'est la Nouba Ghrib, où on a des pièces.
Oui, le Ghrib. Toutes les Noubas contiennent un petit
là,
peu
le Ghrib,
tout ça. Le Ghrib est plus riche dans ce sens.
Le Ghrib, voilà. Tu as par exemple une pièce, la seule pièce qui est en locrien, ça veut dire dans le mode du Sipa, qui n'est pas un Sika.
Qui n'est pas un Sika.
C'est pas qui est locrien, c'est la seule Nouba où on a trouvé une pièce en locrien. Et ça, c'est incroyable.
Expliquons les termes qu'on utilise.
La gamme de si.
Locrien, c'est la gamme de si. Sur le piano, tu joues qu'avec des notes blanches.
Les gens qui connaissent rien ce domaine veulent savoir.
Je pense qu'on va alléger un petit peu, parce que là, ça devient très académique et très complexe pour certains de nos auditeurs. Peut-être que ça serait bien si on pouvait passer à un petit peu de musique.
Ça serait bien si tu nous proposes quelque chose.
Eh ben, je vais vous proposer Yabadi al-Husn, qui va vous apparaître complètement différent de la version d'origine. Évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu harmonisé. On reste dans le mode Zidane. On va sentir tous ces changements de mode. Et puis, c'est interprété par la jolie voix de Hasna Hini.
Oh,
C'est extrêmement bien fait, c'est très joli, c'est un arrangement bien fait de professionnel Henni Hassana qui nous chante Yabadi El Hassan dans un club dans le monde de Zidane.
Zidane.
Et voilà, donc, mais nous le connaissons, on a fait le Fessika.
Non, non, il est Fessika, même à Alger, sauf qu'il est à Belmotla, ou à Alger, Bzman, et qu'il est à Belbiot. Et il y a trois modes, il y a trois modes réellement. Il y a le Zidane, le Motla Fessika, et il y a des modulations, Felbiot, Fessika ou l'Arach. Fessika ou l'Arach, Benessika. Il est très riche et ça.
Mais il y a en son une tentative de je dis pas allègement, mais d'amélioration.
Est-ce que tu le sens là, toi tu connais?
Oui.
C'est le sable.
Oui.
C'est le sable.
Oui, oui.
On est là-dedans.
Même le bios, il y a une petite différence parce qu'il ne va pas sur le sol. Il n'y a jamais de descente au sol quand on est sur le ré, quand on joue sur le ré. Et cette version, c'est Erdouane ou Cheikh Larbi, quand il était au sommet de son art. C'est le modèle sur lequel j'ai travaillé pour faire les arrangements. Bon, on a
les années 30 et 40.
Non, c'est un arrangement en 1960 en pleine Torah.
Je me posais la question, moi, cher.
Je l'ai réécouté grâce à toi.
Parce que la version de Yamna est différente de ce qui se fait actuellement à Alger.
Oui, oui.
Et elle n'a pas systématiquement avec la chute vers le sol.
Oui.
Et ensuite, les trois vers, ils sont différents les uns des autres.
Mais ça, c'est
donc,
liberté,
c'est-à-dire, il y a un travail de critique sur la version d'IMA qu'il faut faire.
Pourquoi critiquer? Pourquoi?
C'est-à-dire, vas-y, développe.
Pour comprendre ce qu'elle a fait.
Elle improvisait, elle chantait librement, elle ne faisait pas le travail pour que demain Youssef la contrôle ou la qu'il passe un examen.
C'est déjà une critique.
Non,
c'est déjà une critique du morceau.
C'est sympathique. Même le Hawad al-Osso Tsaha. Elle est plus proche de la version de Tlemcen que celle d'Alger. Sfinja, la même chose. Moi je le démontre. Est-ce que la réponse c'est un contre-champ, la réponse? Elle reprend Tchaouk.
Dans le sens critique, sens critique.
On en a parlé d'ailleurs.
On en a parlé. Mais dans le sens critique, c'est de détecter dans ces morceaux, quelle est la structure rythmique qui est suivie.
Oui.
Comment se fait le découpage des paroles? À quoi correspond l'architecture du morceau?
Mais elle n'est pas dans l'académisme.
Elle n'est pas dans l'académisme, mais pour du point de vue pédagogique, vue pédagogique du morceau,
on doit
faire un effort de comprendre.
Alors écoute Mosino, écoute Svinja, toute personne ne rentre dans cette... On a... un académisme rêvé, en rêve, tu rêves d'un modèle parfait, construit. Ça s'est jamais passé comme ça. Maintenant, tu parles d'un modèle idyllique et ça, c'est un sujet très important sur lequel on va s'appuyer. Que ça soit la structure des pièces. Au nombre de mesures, le dallage, le colché, la réalité de ce monde ne s'est jamais passée comme ça. Jamais cette musique, l'histoire jusqu'au 19e, 20e siècle n'a été une musique d'orchestre.
Tu n'en sais rien.
Non, on le sait. On a assez de documents.
Voilà,
Dwight Reynolds a travaillé là-dessus.
Farmer
n'a pas fait un travail aussi approfondi.
Sur la musique mesurée, sur l'harmonie.
Oui, mais Farmer,
dans le chant arabe.
Farmer a essayé de transposer ses connaissances qu'il a eues en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles. C'est une projection. Et qui est magnifique, l'œuvre de Farmer. Mais Dwight Reynolds est plus proche de nous. Il est resté 4 ans en Andalousie, il a exhumé des livres où ils disent que jamais, jamais, jamais cette musique, jusqu'au 13e siècle, Beshwulet's orchestre, ça veut dire 8-10 personnes. Mais avant, elle se jouait, c'est une musique sattarab, une musique de chambre qui se jouait avec maximum 3-4 minutes. Ça, il a fait des statistiques là-dessus.
Bien sûr,
80% des archives, des documents te présentent cette musique comme une musique de chambre à 3-4 musiciens.
Merci beaucoup de l'information.
Et avec une grande
liberté.
Et on reviendra
à nos auditeurs que nous sommes avec Faisal Ben Khalfat qui nous est venu de Tlemcen. Il y a également Dave Fazilat avec nous et il y a comme toujours Youssef Touaibia qui est là, qui me soutient, qui sourit d'ailleurs maintenant à l'instant même. Il y a aussi à la barre technique et à la direction de cette réalisation Amin Louli. Je tiens toujours à mon sujet, à mon thème de prédilection, qui est les modes. Je vais vous faire revenir aux modes. Enfin, c'est ça qui intéresse aujourd'hui toutes les associations, qui intéresse tous les gens qui s'occupent un peu de ce domaine-là. Alors, les modes. On a dit, il reste 12 noubots qui ont été sauvés de l'oubli. Deuxièmement, les noubettes plutôt qui correspondent au mode à peu près, est-ce qu'elles sont, elles ont résisté autant? Est-ce qu'elles sont meilleures que les autres? Où sont passées les autres?
Il faut jamais oublier qu'on va parler de notre époque. Depuis jamais, jamais, jamais le travail de restauration n'a atteint le niveau que celui qui a été atteint depuis l'indépendance, depuis 1962, depuis un 5 juillet 1962. C'est pas de la démagogie. Mmh. On peut dire que nous avons doublé depuis 62 nos corpus tlemcéniens, algérois et constantinois. Mmh. Grâce à des gens comme l'Arbi Ben Sari, Sid Ahmed Sari. Quand je parle de Sid Ahmed Sari, ça inclut tous ses maîtres.
C'est ça.
Abderrazak Farji, qui était son ami et son maître. Et les autres, et tous les autres.
Omar Ben Salman également, qui était derrière.
Omar Ben Salman, bon, c'est pas la même. Moi, je connais très peu. Je n'oserais pas parler de quelqu'un dont je connais pas l'œuvre. Je n'ai pas de document de Omar Ben Salman.
Et à Constantine, faut pas oublier aussi Cheikh Hassouna, qui a fait un travail magnifique.
Non, pas que lui.
C'est tout. Et Toumi, tous les autres.
Et le père de Fergani, de Tahar Fergani, qui a joué un rôle essentiel.
Il
était dans le Malouf aussi. Et il a enrichi le répertoire du Malouf, Abdelkader Toumi, bien sûr, comme tu dis. Mais pour revenir à l'histoire du mode et des corpus, moi je vais parler des corpus, c'est plus intéressant. Ils ont enrichi, ils ont doublé, et c'est vérifiable tout ça. Les connaissances, par exemple, j'ai un document de Sid Ahmed Sarri avec Khairuddin Aboura, et ça c'est les meilleurs témoignages, qui date d'une semaine après le décès de Hamid Al-Khatib.
D'accord.
Déjà, Khairuddin Hadar al-Jenaza, et ils se sont assis, et devant la catastrophe de la perte de Hamid Al-Khatib, ils ont décidé d'écrire le corpus qu'il avait hérité aussi bien qu'il connaissait à l'époque. Et quand on va à travers ce document, bon, on retrouve des choses même inédites qu'il nous a sorties dans le coffret, mais on voit que c'était un répertoire beaucoup plus réduit que celui que nous avons dans le coffret qu'il a sorti en 2011. Oui, c'est en 2011. Voilà.
2011, oui.
Donc, Alger, et là aussi, grâce à Kamel Malte...
Tlemcen, capitale de la culture.
Voilà, au Kamel Malte, grâce à lui... Il a joué un rôle extraordinaire pour vraiment améliorer les corpus et pour la mise en ordre de tous ces corpus. Il a joué un rôle extraordinaire grâce à des enregistrements qu'ils ont demandé à Ardouane, des pièces qu'on avait oubliées et dont on n'était pas sûr de la forme. Et ils ont demandé à Ardouane de leur enregistrer. Il a enregistré, je crois, une cinquantaine ou 60 pièces, mais qui ont été, les listes ont été faites par Sid Ahmed Sarri, Mohamed Bouali et Kamel Malte, avec Khairuddin Aboura derrière, qui donnait l'information. Parce que Khairuddin Aboura avait toutes les
archives
de
son père.
Les archives de son père. Et c'est comme ça que le fameux Bouchra Haliya, dont on aura le bonheur d'écouter la version de Fazilet, c'était sur ces bandes-là. Personne ne jouait plus, personne ne connaissait plus Bouchra Haliya. Ou Sid Ahmed, dans son livre bleu, ça, avec Rachid Mahi, avec l'ENAG, je crois que c'était l'ENAG, il a mis...
Non, c'est pas l'ENAG.
C'était à compte d'auteur. un conte d'auteur en 1996.
C'est pas les nagues. Non.
Donc il a signalé Houa ou Yaqam Asradi Belben. Alors qu'il les connaissait pas.
Il avait signalé plusieurs morceaux.
Oui.
Dont il n'avait pas les mélodies.
Dont il n'avait pas peut-être.
Ou alors il n'était pas sûr.
N'était pas sûr.
Dans Sidi Ahmed, quand il a dans le fait qu'il ait nommé plusieurs pièces dans ses écrits, pour lesquelles il n'était soit pas sûr de lui, soit il savait qu'elles avaient existé, mais ne connaissait pas du tout la mélodie. Voilà ce que vient de vouloir préciser Youssef.
C'est-à-dire dans les répertoires.
D'ailleurs, il n'a pas enregistré Fiqh bin Noum Ta'al-Baya parce qu'il n'était pas sûr.
Sur ses cahiers privés, il avait une mention, il mettait un T devant les morceaux. C'est-à-dire que c'était des morceaux qui venaient de Tlemcen.
Oui, mais moi, je vais mettre un petit
soupir comme ça, puisqu'on parle de langage musical, pour écouter qu'est-ce qu'elle nous propose, Fazilat.
Alors là, je vais vous proposer, on va rester dans le Ziden, toujours avec Hasna Hni. Je vais vous proposer, je vais vous laisser écouter Tahakkamo Dalamo. Et juste après, je vous raconterai son histoire.
Tu nous as donné l'eau à la bouche tout à l'heure, Fazilat.
Tahakkamo
Dalamo, c'est toujours Hasna Hni.
En fait, l'histoire de Tahakkamo Dalamo, je suppose que la majorité des musiciens qui ont eu en main le petit livre de Christianovitch, d'Alexandre Christianovitch, esquisse de la musique arabe, c'est ça, Youssef, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui était paru en 1863, Mais bon, je résume rapidement. Christianovitch, c'était un officier de marine russe qui était en Algérie entre 1860 et 1861. Il est venu, va savoir pourquoi. Mais toujours est-il que ce personnage, étant officier russe, donc il venait très certainement d'une famille d'aristocrates. Il avait une formation musicale, comme la majorité des familles occidentales de l'époque. Nous sommes au 19e siècle. Et il s'est inévitablement intéressé à la musique locale. Bon, je vais pas trop vous donner de détails, mais dans ce qu'il a fait, on a un point d'histoire très intéressant. C'est que quand Christianovitch a cherché, je vais pas vous faire l'insulte de relire le livre, non, mais il a, semble-t-il, obtenu Tahakkamou Dalamou à l'époque où à Alger vivait encore quelqu'un qu'on pensait mort, il vivait encore Hadj Barahan. Alors que nous sommes, à cette époque-là, nous sommes en 1860, d'autres orientalistes l'ont donné pour mort bien avant, dont Jules Rouanet avait donné Hadj Barahan pour mort, alors que non, il dit même l'avoir rencontré. Là, je voulais quand même préciser ça parce que pour les gens un peu pointilleux sur l'histoire, ça a son importance. Et le puisque Hadj Barahan était désigné comme étant le vieux maître, le vieux ma'allem, qui était celui qui détenait la grande nouba de l'époque. Bon,
non, c'était ma question, justement.
Ça fait partie de nos belles histoires. Mais donc, pour revenir à Tahakkamou Dalamou, et ça, je suis sûre et certaine que Youssef ne sera pas content, mais ça fait rien, c'est pas grave.
On va l'écouter dans un moment.
On va discuter, gardez-le à distance. On va discuter. Tahakkamou Dalamou, Christianovitch en a fait une proposition, il a fait une notation, il a proposé une partition dans son livre, il a fait faire la traduction par son ami Gorgos, c'est ça, qui était professeur d'arabe à l'université d'Alger à l'époque. Oui, il était au lycée là-bas. Et dans la partition de Christianovitch, quand nous, aujourd'hui, avec notre esprit d'aujourd'hui, cher Youssef, avec tout ce qui nous conditionne au 21e siècle, on va la trouver bizarre, on va la trouver quelconque, on va la trouver étonnante. Et en fait, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, parce que Christianovitch l'a écrite à une époque, nous sommes au 19e, et lui-même appartient à une école de musique occidentale qui avait ses règles. Les règles étaient les suivantes. Sur une portée de musique, il n'était pas admis d'avoir deux altérations de son époque à lui. C'est quand le solfège a évolué quelques années plus tard avec l'avènement de Debussy, les gammes exotiques et ce genre de choses qui sont arrivées que plusieurs altérations étaient autorisées. En plus,
il faut préciser les dièses et les bémols.
Oui, j'y arrive. Merci Faisal, j'y arrive. Les dièses et les bémols, on est dans le Zidane et il y en avait plusieurs. Et plus, quand Christianovitch obtenait cette chanson, c'était essentiellement Hamoud Ben Mustafa, comme il le dit dans son histoire, qu'il la lui a confiée. Bien évidemment, nous et nos ornementations, nous chantons difficilement, rarement, deux fois la même chose. Souvent, on fait une petite variation comme ceci, comme cela. Pour l'oreille éduquée d'un occidental, waouh, ça variait, ça changeait. Donc, il n'a pas réussi à totalement capter l'essence même de cette pièce-là, ce qui fait que sa partition est nettement différente de ce que ça aurait pu donner autrement. Donc, voilà. C'est une des choses pour lesquelles je voulais un petit peu remettre...
Très bien, tu l'as bien fait. Très bien fait.
Et un petit peu remettre les choses longuement, en place.
Longuement, on va donner la parole.
19e et 21e siècle, ami, et on ne voit pas les choses toujours de la même façon.
À notre ami Youssef.
Oui, je pense qu'il ne faut jamais projeter sur une ancienne histoire, sur une époque très ancienne, notre vision d'aujourd'hui, actuel. 21e
c'est
siècle,
tout à fait logique,
et
oui.
Dire il aurait fallu ceci, il faudrait cela.
C'est tout à fait, je ne suis pas très d'accord. Tout à fait logique. On va écouter Youssef.
Ouais, merci pour le rappel de...
Je vais lui donner une injonction de parler.
Bon, merci pour le rappel. Allez, quand on voit le travail de Christianovitch, il est bien stipulé que c'est une esquisse.
Voilà.
Donc, il n'avait pas la prétention de fixer ou là, de sauvegarder la pièce. Donc, allez, il faut se mettre d'accord sur esquisse.
D'abord, ça ne l'intéressait pas.
Ça ne l'intéressait pas. Et le but, peut-être, de Christianovitch, on le voit sur le travail, c'est harmoniser les morceaux. Voilà. Donc, pour présenter une musique à ses compatriotes.
Qui lui paraissait exotique.
Voilà, avec le côté exotique. Comme le style pultain avec notre ami Faisal, c'est-à-dire si on lit la partition et on connaît le Zidane qu'on connaît, on va se rendre compte que Christianovitch a oublié ou là on ne sait pas pourquoi une certaine altération sur les notes.
Il y a une chronologie de la musicologie. En 1860, la conception de deux altérations différentes, mettre une main portée, des bémols et des dièses, était inconcevable. Voilà, ce n'est venu que très tard, à la fin de ce siècle-là, la fin du 19e siècle, avec Debussy, avec l'école française, et ce qu'on appelait les modes exotiques. Ils ont commencé à transcrire un Zidane, un double harmonique avec des dièses et des bémols. C'est tout, il n'y a rien de...
Là, en 2015, à l'occasion du Festival international des musiques anciennes, nous avons donné une communication sur cette Nouba Zidane dans son ensemble. Il y a les Msattarp, Taïhi Tarq, qui a été présenté en 2015.
À Abou Saada d'abord.
Non, ici à Alger. Et bien avant la communication, cette Nouba Zidane et ce morceau en particulier a été exposé sur un site internet.
Un site internet
qui s'occupe...
Célèbre.
Qui traite de ces questions.
Ben, il faut le dire.
Les gens qui suivent la musique le connaissent.
Et dans quand cette, on dit Youssef, on connaît.
Voilà ça. Et dans cette première mouture, première esquisse de décodage de ce qu'avait fait Christianovitch, parce que c'est pas évident de trouver ou de deviner ce qu'il voulait dire à travers sa transcription. Les gens qui ont travaillé dessus peuvent en témoigner. Et donc, quand on avait exposé ça sur le site, on avait mis la deuxième partie de ce morceau en faisant le rapprochement avec ce qu'il y a sur notre répertoire, Bidimen Lahawa. On a pensé à une modulation vers l'arabe.
D'accord.
Hagda. Et ensuite, 2015...
Pas, moi, j'ai trouvé sur la partition.
On a fait la communication au niveau du festival. Et en 2018, à l'occasion d'un colloque international à Bouzaada, nous avons présenté une communication sur les sept msaddar de Christianovitch. Et là, on a essayé de décortiquer un petit peu ce qu'avait fait Christianovitch. Pour décoder, essayer de voir le côté systématique de certaines transcriptions. Et on avait vu que sur ce Msaddar Bidimem Tahakamu Dalamu, on pouvait faire une lecture, je suppose. Il faut souligner.
Interpréter.
Faire une lecture en restant uniquement dans le Zidane. C'est la transcription a été présentée avec les actes du colloque. Malheureusement, le CNRPH n'a pas édité ces communications, faute de budget. Toutes les autres communications colloques ont été là. Pour revenir à ce Msaddar, on sait que dans la Sana'a, les morceaux sont classés par famille. Et la famille de ce morceau, c'est la famille du Basset. C'est un maître classique. D'ailleurs, le texte est en maître classique. Et la façon de dire les paroles, de découper les paroles, est propre au mode, au maître al-Basit. Et là, dans cette interprétation qu'on vient d'écouter, on est totalement à côté de ce qu'on peut présenter avec le maître. Le mode al-Basit, tous les morceaux en métrique Basit se découpe d'une même façon. C'est le terrain qui dit ça.
Poésie, mais quand on chante,
c'est la même chose.
Et moi, quand je fais cette musique, quand j'ai fait Tahkamu, j'ai pensé comment Erdogan aurait interprété ce Zidane. Je n'accorde pas d'importance aux théories, qu'elle ne réalise pas. C'est même pas de l'arabe comme tu l'entends. C'est de l'andalou. c'est des textes qui sont, c'est Darija, elle est entre Mouchah et elle est entre Zajel. Oui, c'est ça la réalité. Bon, enfin, on se remettra jamais d'accord là-dessus.
C'est du pur classique.
Alors, et pour les partitions, alors je vais vous dire, c'est très important. La vraie partition, des partitions nettes, précises, qui suivent le chanteur à la double croche près, que ce soit sur la hauteur ou là, sur le rythme, elles ont été, je crois qu'on est les premiers à les faire d'une telle précision. L'histoire, bon, je ne connais pas tout, mais j'ai vu les partitions de Jules Rouanet, partitions qui sont, moi, les premiers à avoir fait des partitions, mais qui suivent à la double croche près le chanteur, c'est celle de Youssef, là on peut être d'accord, et les miennes.
Ah oui,
voilà. Là, on est dans une précision.
Heureusement que vous tombez d'accord.
Allez, on va écouter un peu de musique.
Je vais arrêter tout ça. Plutôt, c'est toi qui viens d'arrêter tout ça. Voilà. Alors, on va demander à Fazilat qu'est-ce qu'on écoute. Voilà, puisque tu viens avec.
Qu'est-ce qu'on doit. Non, je vais. Ces deux-là.
Ça part ces deux-là. Voilà.
À part ces deux-là.
Ouais, tu t'attendais à ça.
On va encore rester dans quelque chose. Qui va être vers Kamliya Ikhwan. On va aller vers Kamliya Ikhwan. On est toujours dans le Sidane et avec Hasna Hani.
Bon salut.
Très bien.
Hasna Hani vient de nous gratifier encore d'un très joli morceau, Kamliya Ikhwan, qui est une pièce d'excellence qui a pu heureusement rester parmi nous grâce à Si Mustapha Aboura, qui lui-même en a hérité de Boudolfa, et nous en sommes un peu beaucoup et certains et très sûrs parce que quand Mustapha Aboura avait...
Il faut dire ce qu'on a de...
Boudolfa, c'est le Cheikh, le Cheikh de l'Arabie Bensari. Et quand Boudolfa l'a remise à Mohamed, à Mustafa Aboura, lui-même a fait valider cette liste par Mohamed Dib.
Merci beaucoup pour ce commentaire de Fazilat. Merci pour Faisal Belkhalfat. Nous laissons l'antenne à nos amis de l'information. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous juste après le journal dans un petit moment.
I'm